France Inter.
Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, la brave M ou le nouveau maintien de l'ordre à la française. Cette histoire est une histoire en cinq lettres, celle d'un acronyme BRAVM pour Brigade de répression de l'action violente motorisée. Déjà, l'intitulé est un peu inquiétant. Il désigne cette unité de police parisienne composée de duos à moto, une unité dont le rôle est de disperser les regroupements lors de manifestations et rassemblements susceptibles de dégénérer. Officiellement, on parle d'un emploi de la force gradué et proportionné, et aussi d'un maximum d'interpellations dans la lutte contre le vandalisme et les black blocs, dixit la préfecture. Créés en 2019, au plus fort de la contestation des Gilets jaunes, les braves M sont depuis largement décriés pour leur méthode, considérée à tout le moins comme brutale. Le nombre d'accusations et de plaintes pour violences policières à leur encontre en témoigne. Ce nouveau modèle de maintien de l'ordre à la française n'est pas qu'un sujet policier, c'est une question éminemment politique. Notre invité aujourd'hui, David Dufresne, journaliste, écrivain, réalisateur, spécialiste des questions policières. On lui doit notamment le documentaire « Un pays qui se tient sage » en 2020. Il a également fondé le média auposte.fr. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Juliette Proutot, rédaction chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Frédéric Milano.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
Tu sais que t'as une sacrée tête à claque quand même. Vraiment.
Tout à l'heure, on est arrivé, t'as bandé vers l'intérieur. Bon, t'avais plus de pique d'or quand on est arrivé. Je peux te dire qu'on en a cassé des coups, des gueules et des noms. Mais toi, je t'aurais bien pété tes jambes.
Efface ton sourire.
Prends exemple sur tes potes.
Tu l'as fait, motard brune. Je ferme pas. Moi, je ferme pas. Tu commences à bégayer. T'en veux peut-être une, non? Pour te remettre la mâchoire droite. Moi, tu sais, je peux venir dormir avec toi si tu veux.
Bah, on y va.
On y va? Ouais. Ah ouais? Oui. Ok, c'est le premier qui bande en cul l'autre.
Là, t'inquiète, ta petite tête. Ta petite tête, on l'a déjà en photo. T'as juste à te repointer dans la rue prochaine manif. Mais je peux te dire que nous, les têtes, on est vachement figés, on les retient. Mais t'inquiète pas que la prochaine fois qu'on vient, tu monteras pas dans le car pour aller au commissariat. Tu vas monter dans un autre truc qu'on appelle ambulance pour aller à l'hôpital. Moi.
Ce que vous venez d'entendre n'est pas l'enregistrement de deux bandes rivales qui s'affrontent. Ce n'est pas non plus la captation d'une rixe qui est en train de mal tourner, non. Ces voix sont celles de policiers, donc d'individus assermentés qui s'en prennent à plusieurs jeunes manifestants qu'ils viennent d'interpeller. Nous sommes le lundi 20 mars 2023 au soir, quand en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites, quelques centaines d'individus séparés en petits groupes tentent de mettre le feu à des poubelles et de reconstruire ou de construire des barricades dans le centre de la capitale. Les forces de l'ordre quadrillent le secteur et procèdent à des interpellations. Ainsi, sept jeunes gens qui ne se connaissent pas, dont on ne sait pas s'ils ont ou non participé au désordre, sont arrêtés et regroupés à l'angle de la rue des Minimes et de la rue de Berne, dans le 3e arrondissement. Ils sont menottés et assis sur le trottoir. Parmi la grosse dizaine de policiers présents, certains semblent concentrer leurs menaces sur une personne, en particulier la seule personne noire du groupe. La dimension raciste des remarques ne fait aucun doute. Ce n'est pas un jugement, ce sont des faits. Ici recueilli.
T'as déjà pris une vraie branlée, pas ? Non,
je te garantis quand t'as.
Le jour où ça va tomber dessus. J'espère que demain t'es déféré, tu vas prendre quoi ? 6 mois ? Ouais, 6 mois, c'est bien, ou une OQTF. Vous avez une pièce d'identité sur vous, monsieur, ou quoi ? Montrez-la moi, votre pièce d'identité.
C'est agaçant.
C'est un titre de séjour ?
Oui.
Oui ? Tu vas passer en garde à vue, demain t'as une OQTF. C'est fini.
Demain, quelle nationalité à la
fin ? Titre de séjour, tu fous le bordel.
Il va partir au tchat.
Sérieux ?
Aïe, aïe,
aïe. Ah, tiens.
À la fin de ces échanges, enregistrés par le téléphone de l'une des personnes interpellées, on entend ceci. Ok les gars, on commence à casquer parce qu'il y a encore du monde sur Château d'Eau. Et toi t'as de la chance, on va se venger sur d'autres personnes. Si t'as l'occasion de regarder la télé, regarde bien, tu verras ce qui t'attend quand tu reviendras. Intimidation. Gifles, insultes à caractère raciste ou sexiste, c'est peu dire que les policiers en question ne respectent ni le code de déontologie auquel ils sont normalement soumis, ni la loi dont ils sont pourtant les représentants. Dans d'autres circonstances, on aurait peut-être pu parler d'incidents malheureux, inacceptables, mais isolés, fruit du comportement de quelques brebis galeuses qui ne représentent pas l'unité dans laquelle ils travaillent. Sauf que les policiers en question n'appartiennent pas à n'importe quel groupe. Ce sont tous des membres de la Brave M, ou Brave Mike, comme on dit dans le jargon. Or, la Brave M, c'est sa violence qui l'a fait connaître. Parce que ce qui se déroule ce soir de mars 2023 n'est ni le premier ni le dernier fait d'armes de la Brave M. Dès le lendemain, d'autres agents de cette brigade sont aperçus en train de commettre des brutalités à l'encontre d'un manifestant. Il s'appelle Valentin, il a 19 ans. Et cette fois, c'est une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux qui révèle les agissements des policiers. Sur les images, on voit le jeune homme courir et trébucher sur le trottoir. Juste derrière lui, il y a deux motards et un agent à pied qui s'arrête à son niveau. Et puis on voit ensuite l'une des motos redémarrer et rouler sur la jambe gauche de Valentin. On entend ensuite deux policiers crier sur le jeune homme pour qu'il se relève. Ils le plaquent contre un arbre et finissent par s'en aller. Sans avoir interpellé ou arrêté Valentin, qui ne sera jamais poursuivi pour aucune charge. Il raconte, pour complément d'enquête.
On voit bien que le policier, en fait, arrête sa moto, puis décide de redémarrer. Donc il l'a fait sciemment, et ça j'en suis sûr. Et ensuite, bah, il me relâche, donc ça démontre bien qu'il me poursuivait pour aucune infraction, quoi, et que cette violence, elle avait vraiment pour but de faire peur.
Les manifestations de 2020 contre la proposition de loi dite « sécurité globale » donnent lieu à plusieurs exactions de la part des membres de la Brave M. Le commissaire en charge de ces brigades, lui-même, est poursuivi pour avoir blessé le 28 novembre 2020 Amer Al-Abi, photojournaliste syrien, qui travaille notamment pour l'AFP. Différentes vidéos montrent le policier le frapper au visage avec sa matraque télescopique. Le journaliste a le nez cassé. Quelques jours plus tard, le 12 décembre, toujours à l'occasion de manifestations contre la loi sécurité globale, un autre journaliste est frappé au sol par des braves M à coups de matraque et à coups de poing. Les deux policiers seront condamnés à 6 mois de prison avec sursis. Quelques mois plus tôt, en juin, il s'agit cette fois d'un rassemblement organisé contre les violences policières. Des agents de la Brave M jettent de façon aléatoire des grenades lacrymo sur une foule située à quelques mètres à peine. Cette fois, ce sont des gendarmes qui invectivent les agents de la Brave M pour leur violence. Sur une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, on voit d'abord une femme appartenant aux forces de l'ordre les invectiver. « Mais qu'est-ce que vous faites là ? Qu'est-ce que vous faites là ?» Un policier lui répond « On nous a dit de venir ici pour disperser. » Un gendarme lui rétorque « Et alors ? Disperser, ça ne veut pas dire gazer. » Voilà, dans les grandes lignes, comment résumer la sombre réputation qui suit ces brigades depuis leur création en 2019. Et puis, le souvenir d'une autre compagnie plane sur la Brave M, composée elle aussi de binômes à moto, qui en ont traumatisé plus d'un ou plus d'une, les voltigeurs.
Sur chaque moto, en majorité tout terrain, capable de se faufiler partout et de grimper facilement sur les trottoirs, deux hommes, l'un pilote, l'autre est armé d'une matraque. L'objectif de l'unité, commandée par un officier de police, est de surprendre, d'intervenir très vite dans un quartier contre les casseurs et d'impressionner le plus possible l'adversaire pour le déstabiliser. En principe, les petits commandos isolés d'étudiants, ou plus souvent de faux étudiants, ne se frottent pas à ce genre d'unité et évitent l'affrontement direct avec cette brigade très impressionnante et très mobile. Dans le feu de l'action, il y a malheureusement parfois des bavures, des claques ou des coups de matraque qui pleuvent sur des gens qui n'ont souvent rien à voir avec les casseurs.
Ce peloton de voltigeurs motorisés est créé après les manifestations de mai 68. Ces unités sont composées de deux policiers à moto, un pilote et un passager, munis d'une longue matraque qu'on appelle un bidule, histoire de faire de la place aux passagers à moto. Et tant pis pour celles et ceux qui se trouvent à sa portée. Eh bien, c'est en partie à cause de cette matraque, particulièrement dangereuse à la main d'un homme lancé à pleine vitesse sur une moto, que les voltigeurs sont craints. Ça, et plus généralement, leur pratique de maintien de l'ordre, d'interpellation. Mais à l'époque, dans les années 60, puis 70, on ne parle pas de violence policière. Ça n'existe pas. Il faut attendre la mort d'un jeune homme, en 86, pour que l'on commence à remettre en question l'existence des voltigeurs. Nous sommes le 5 décembre. Ce jour-là, un événement bouleverse la France et met le gouvernement dans un immense embarras.
Que s'est-il passé la nuit dernière, rue Monsieur le Prince, dans le 6e arrondissement ? Un groupe de manifestants repliés sur le quartier latin après l'évacuation dans le calme de la Sorbonne par les forces de l'ordre dresse des barricades et incendie les voitures à l'angle de la rue de Vaugirard et de la rue Monsieur le Prince. Une patrouille motorisée intervient pour dégager la rue. C'est au moment de cette intervention qu'un jeune homme de 22 ans, Malik Oussekine, étudiant à Dauphine et né à Versailles, va trouver la mort malgré les efforts des sauveteurs pour le réanimer. Arrêt cardiaque consécutif aux coups portés par les policiers, arrêt cardiaque dû à la peur. Une enquête est ouverte par l'inspection générale des polices, la police des polices, pour déterminer les circonstances exactes du décès de ce jeune étudiant. Mais pour l'instant, les témoignages sont accablants. Ce matin, avec le recul, un témoin raconte.
Je me suis foutu au balcon. J'ai vu trois CRS sortir de cet immeuble avec un mec qu'ils ont littéralement tabassé de façon extrêmement violente, au milieu, au nez de tout le monde.
Malik Oussekine est mort sous les coups des policiers. Mais parce qu'il était sous dialyse, la thèse de la mort accidentelle, en lien avec son insuffisance rénale donc, est longtemps maintenue. Le ministre délégué à la sécurité d'alors, Robert Pendreau, déclare « La mort d'un jeune homme est toujours regrettable. Mais je suis père de famille. Si j'avais un fils sous dialyse, je l'empêcherais de faire le con dans la nuit. » Mais Malik Oussekine ne faisait pas le con. Et quand bien même si c'était le cas, en quoi cela pourrait-il justifier sa mort ? Le procès des hommes qui ont tabassé le jeune étudiant se tient 4 ans plus tard, en 1990. Sur les 3 policiers inculpés, seuls 2 seront condamnés pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Mais aucune peine de prison ferme n'est prononcée. Les agents incriminés copent de 2 et 5 ans avec sursis. Entre-temps, Charles Pasqua, alors ministre de l'Intérieur, dissout le peloton de voltigeurs. La mort de Malik Oussekine choque le pays. La brutalité et la violence des voltigeurs ne pouvaient plus être ignorées. Voilà pourquoi, quand en 2019, les nouvelles brigades de policiers à moto sont créées, le souvenir des voltigeurs et de l'affaire Oussekine ressurgit immédiatement. Même si, à la différence des voltigeurs, les braves ne peuvent utiliser les motos que pour se déplacer, pas pour interpeller ou matraquer. Enfin, officiellement. Mais pour comprendre à quel point leur création est politique, il faut remonter plus loin encore que les années 60. Il faut expliquer l'histoire du maintien de l'ordre en France, qui change avec la Révolution. À partir de 1789, en effet, on considère que l'État est l'émanation du peuple. Cela signifie que le citoyen qui manifeste ne peut plus être considéré comme un ennemi simplement parce qu'il exprime son mécontentement. Non, il doit être protégé par la loi, que l'État doit dorénavant respecter. C'est cette philosophie que l'on retrouve dans l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit « Une force publique, force instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. » Pour le podcast « L'heure du monde », la journaliste Anne Chemin explique le phénomène de pacification du maintien de l'ordre qui s'est poursuivi au XIXe siècle.
On voit qu'il y a un mouvement de pacification du maintien de l'ordre au fil du XIXe siècle. La gendarmerie est de plus en plus professionnalisée, l'armée intervient de moins en moins, le principe de la sommation entre dans les mœurs, et du coup, on a une réduction du nombre de morts lors des rassemblements, du premier au second empire, donc du début du XIXe au milieu du XIXe, le nombre de décès pendant les rébellions passe de 74 à 17.
La journaliste explique ensuite qu'avec l'instauration de la Troisième République, l'État tente de démocratiser le maintien de l'ordre. Ainsi, en 1884, alors que la liberté syndicale est proclamée dans la loi Waldeck-Rousseau, le ministre de l'Intérieur demande à ce que l'armée n'intervienne plus dans le maintien de l'ordre. Ce rôle est désormais confié à des policiers, donc des civils. Et ça change tout, parce qu'à la différence des militaires, ceux-là vivent au cœur de la société civile. Ils font partie du même groupe social que celles et ceux qui manifestent, et ça permet de pacifier les rapports. En parallèle, à partir du début du XXe siècle, on demande aussi à ceux qui initient des manifestations, en particulier les syndicats, de s'organiser davantage, de participer aux efforts de pacification. Dorénavant, les manifestations doivent être déclarées en préfecture, leur trajet doit être discuté en amont, et il faut qu'un service d'ordre soit prévu. À partir de 1930, jusqu'à l'après-guerre, ces pratiques visant la désescalade de la violence se précisent et se généralisent En tout cas en métropole, comme l'explique ici encore Anne Chemin.
Le maintien de l'ordre à la française qui va consister à retarder au maximum l'usage de la force, à mettre les manifestants le plus loin possible des forces de maintien de l'ordre, avec le gaz lacrymogène, avec les barrières, avec les canons à eau. Et on va ajouter à tout ça la négociation préalable, c'est-à-dire le fait que les organisateurs déclarent leur manifestation à la préfecture, négocient le parcours, organisent la dispersion. L'invisibilité, c'est-à-dire le fait de ne pas faire de provocation en s'approchant trop près de la foule. Et ce qu'on appelle aussi la sous-application de la loi, c'est-à-dire le fait d'accepter un peu de désordre pour éviter de faire dégénérer la manifestation.
C'est ce qu'on a appelé le modèle français du maintien de l'ordre. Oui, il y a une volonté de dialogue, de cogestion avec les organisateurs pour éviter les débordements. Ça semble incongru aujourd'hui, tant la question des violences policières fait partie de notre quotidien depuis des années. Mais il fut un temps où la France représentait en effet un modèle de bonne pratique en matière de gestion de l'ordre. Bon, cela ne veut pas dire que le pays était dans les faits un modèle. Le massacre des manifestants algériens par la police en 61, tout comme la mort de Malik Oussekine en 86, et pour ne citer que, témoignent de la brutalité raciste dont les forces de l'ordre peuvent faire preuve. En réalité, le tournant sécuritaire, répressif du maintien de l'ordre s'effectue au début des années 2000. C'est à partir de la décennie 2005-2015 que cette politique se durcit et s'éloigne de façon certaine et constante de l'idée de désescalade. Et quand arrive le mouvement des Gilets jaunes, c'est un tournant.
Ce soir, c'est la pression. Je vois le réel de trop près, les insignes des agents. Au sol, nos silhouettes à la craie. J'ai beau fermer les yeux, je ne m'échappe jamais du ciment. Et au loin, le chant des sirènes ne vient jamais de l'océan. Ici, tout a un prix. Même lorsqu'on se dit je t'aime, on vit tous dans le gaz. On fait des rêves kérosène. Rêves kérosène. Rêves kérosène. Mon cœur est sous pression. J'embrasse ton visage cagoulé. Ton âme est une prison. Tes yeux des vitres teintées. Je regarde au fin fond. Je ne vois rien d'autre que mon reflet. On marche ensemble sans se parler. Des mots tranchants rappent le palais. Je voudrais comprendre tes sanglots, tes soupirs, tes silences, savoir les sous-titres. Je veux t'envoler loin d'ici, du ciment, au-delà des forêts de bâtiments. Je... C'est d'or et la route est sombre. L'existence mort comme un coup de tesson. Je rêve, je dors, je vis sous pression. La ville dehors est comme sous caisson. Un croissant de lune s'éteint et s'allume. Donne-moi l'amour que je n'ai pas eu. Et je t'offrirai ce que tu n'as jamais vu. Un vaste horizon caché derrière le talus. Je veux t'envoler, t'inventer des contrées. T'emmener, t'évader au large, au large.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter, aujourd'hui la BRAVEM, ou le nouveau maintien de l'ordre à la française.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Le maintien de l'ordre, c'est quoi exactement? Selon le sociologue Christian Mouana, il faut comprendre le concept comme une balance entre deux impératifs. La défense du droit de manifester, donc la protection des manifestants, et la protection de l'État, autrement dit le maintien de l'ordre public. Tout est donc, comme souvent, question d'équilibre. Et c'est bien la façon dont cet équilibre est appréhendé par les pouvoirs publics qui détermine la doctrine, l'idéologie politique du maintien de l'ordre. C'est elle qui prend un virage définitivement répressif à partir de 2018, à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes. La police estime alors qu'elle doit passer à l'offensive. Il faut avoir en tête qu'en 2018, les forces de l'ordre, tout comme les politiques, sont quelque peu dépassées par la forme de ce mouvement, par son ampleur d'abord, mais aussi par le fait qu'ils n'organisent pas ces manifestations comme un syndicat. Le mouvement n'est pas hiérarchisé, il n'a pas de représentant officiel, et puis le public qui le compose n'est pas habitué à cette ambiance, à la présence policière propre aux manifestations. Le refus du dialogue du gouvernement amène donc à un durcissement des Gilets jaunes qui s'est notamment traduit par l'augmentation des débordements et des violences. Les saccages et incendies autour de l'Arc de Triomphe le 1er décembre 2018 représentent à ce titre un tournant. Oui, comme en témoigne Grégory Yoron, ancien CRS et secrétaire général du syndicat Unité Police FO pour l'émission Envoyé Spécial.
Je pense que ceux qui étaient là ce jour-là et qui ont dû reprendre 7 fois l'Arc de 6 ou 7 fois l'Arc de Triomphe pour le perdre autant de fois et au final le voir saccager, ouais, je pense que ça a été un traumatisme et surtout une incompréhension de ne pas comprendre, de ne pas avoir les clés, savoir pourquoi on n'a pas réussi à éviter ça. Ben, en fait, simplement parce que derrière, il n'y a pas eu les ordres pour tenir cette place comme il fallait la tenir. Parce que, encore une fois, on avait un dispositif qui était trop figé. Après ça, il y a eu une nouvelle réflexion sur une stratégie adoptée. Donc, il a été choisi. Et ça, là-dessus, nous, on assume aussi ce changement de stratégie-là, d'aller au contact dès lors que les noyaux sont identifiés, figés.
Aller au contact. À partir de 2018, ces mots reviennent de plus en plus régulièrement dans la bouche des responsables politiques et policiers. Aller au contact. Ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi, n'importe comment aussi. La signification de l'expression est matière à interprétation, c'est subjectif, donc dangereux. Allez-y franchement, n'hésitez pas à percuter, ça fera réfléchir les suivants. Voilà ce qui est dit par le commandant d'une unité de maintien de l'ordre à ses troupes lors d'une manifestation en 2018. En tout cas, après les débordements autour de l'Arc de Triomphe, le gouvernement d'Édouard Philippe a besoin de montrer qu'il prend les choses en main. Et la stratégie bascule.
Nous allons d'abord renforcer la fermeté de notre doctrine de maintien de l'ordre, en accordant une plus grande autonomie aux forces sur le terrain, qui doivent être, à Paris, placées sous un commandement unifié et dotées d'une large capacité d'initiative. En transformant, c'est le deuxième point, les détachements d'action rapide en unités anticasseurs, dotées d'une capacité de dispersion et de relation, pouvant être engagées dès les premiers troubles. En recourant, c'est le troisième point, à des moyens nouveaux, les drones, les produits marquants, l'utilisation des moyens vidéo à des fins de manœuvre et de judiciarisation. Dès samedi prochain, et chaque fois qu'il le faudra, nous interdirons les manifestations se revendiquant des gilets jaunes dans les quartiers qui ont été les plus touchés, dès lors que nous aurons connaissance de la présence d'éléments ultra et de leur volonté de casser. Dans ce cadre, nous procéderons à la dispersion immédiate de tous les attroupements.
Si le préfet Didier Allemand est le cerveau de cette nouvelle doctrine, c'est la brave M qui est son bras armé. Et tout commence avec l'image, la représentation, la façon dont ces troupes se présentent au public. L'équipement déjà, ces policiers-là portent sur eux, en plus de leurs armes de service, une matraque télescopique, des grenades lacrymo et de désencerclement. Chaque section possède par ailleurs 2 lanceurs de grenades. De tels équipements sur des brigades aussi autonomes, au contact du public, ça n'existe quasiment nulle part ailleurs, en tout cas en démocratie. Et puis il n'y a pas que l'équipement, il y a les tenues également. Tenues de motard, tout en noir, et sous les casques, les cagoules, noires également. Ça n'a rien d'anodin, les cagoules. Elles sont réservées notamment aux forces spéciales, aux militaires. Dans son ouvrage « La police contre la démocratie politique de la brave M », Lucas Lévy-Lajeunesse, membre de la Ligue des droits de l'homme, s'entretient avec le sociologue Christian Mouana sur le sujet.
Ce n'est pourtant pas la seule brigade de police violente. Mais avec la brave M, le danger semble explicite, comme s'il était annoncé par une soigneuse mise en scène. D'abord un style, les tenues semi-civiles entièrement noires, et la dissimulation des visages sous des cagoules qui donnent aux agents un air particulièrement intimidant. La cagoule est aussi un moyen de dissuasion, destiné à intimider, voire à susciter la crainte. Elle permet aux fonctionnaires de se prémunir des interactions avec la population. Ne pas pouvoir lire une expression sur le visage fait partie du rapport de force que l'on induit.
Les Brabem sont sous l'autorité de la préfecture de police de Paris. Elles sont créées ad hoc, ponctuellement, en fonction des besoins. Au départ, on compte 92 équipages, mais leur nombre monte à 150 au moment des JO. Il faut être volontaire pour entrer dans la Brabem. En général, ces policiers sont issus de différentes compagnies d'intervention, de CI dans le jargon. Mais au moment des Gilets jaunes, les Braves recrutent surtout dans les BAC, les brigades anticriminalité. Et ce n'est pas un détail, parce que les BAC, à la différence des CRS, ne sont pas formés au maintien de l'ordre. À l'origine, c'est la police des banlieues, les cow-boys, comme on les appelle dans le milieu, spécialisés dans la lutte contre la criminalité de rue, les interventions à risque, les flagrants délits, les arrestations musclées, mais pas le maintien de l'ordre, la pacification ou la désescalade. La question de la formation des forces de l'ordre est du reste problématique, de façon générale, et au-delà des Braves M. Les policiers eux-mêmes le disent. Une étude du Défenseur des droits, publiée en février dernier, révèle que près de la moitié des agents interrogés se disent insuffisamment formés aux droits des citoyens. S'agissant plus particulièrement du maintien de l'ordre, le rapport montre que seulement 5,5% des bleus marines ou noirs ont bénéficié de formation dans l'année écoulée sur la désescalade de la violence.
En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la fonction crée l'usage. En d'autres termes, quand on crée une unité avec pour mission de se montrer offensive, eh bien, elle se montre offensive, d'autant qu'elle a le sentiment de remplir sa mission et par conséquent d'être couverte par sa hiérarchie. Or, le maintien de l'ordre, c'est un équilibre entre la dissuasion, la mise à distance et, quand il le faut, un usage de la force qui doit être proportionné. C'est dans tous les textes. Dans le cas des Braves, finalement, on a retenu que l'usage de la force et tout le reste a été évacué. Et cet usage de la force, il est d'autant plus débridé parfois que vient s'ajouter à ça une sorte d'esprit de corps qui est entretenu par la hiérarchie sur le thème « vous êtes l'élite, les derniers remparts, vous allez au contact, finalement vous êtes des braves hein, » au sens premier du terme. Et c'est ça, c'est ce discours qui est très galvanisant, surtout auprès des jeunes policiers, qui s'auto-entretient et qui devient finalement extrêmement dangereux, comme on peut le voir avec les vidéos qui tournent en boucle sur les réseaux sociaux, de coups assénés un peu au petit bonheur la chance en fonction de sur qui on tombe.
En réalité, le fait est que, d'une certaine façon, la brutalité, le contact, c'est ce qu'on demande à la Brave M. Comme le rappelle le sociologue Sébastien Rocher, auteur de l'ouvrage « De la police en démocratie », c'est un peu facile de faire porter le chapeau au brave M, comme s'ils s'étaient inventés. Non, ils sont une création politique. Et les policiers sont des travailleurs comme les autres. Ils ne doivent pas être tenus comme seuls responsables. Et puis il y a la question de la politique du chiffre. Impulsée sous l'ère Sarkozy, elle encourage les policiers à procéder à un maximum d'arrestations. Un bon flic est donc un flic qui interpelle. Or, dans un contexte de maintien de l'ordre, multiplier les interpellations, ça n'a pas vraiment de sens. Sans parler du fait que créer des nasses géantes, pour ensuite interpeller des personnes en piochant dans la foule au petit bonheur la chance, pour ensuite les garder dans un car ou en garde à vue, pour qu'ils soient ensuite libérés quasi systématiquement, car les charges ne tiennent pas, bien tout cela est à la fois absurde et illégal. Grégory Auron, syndicaliste, policier, revient sur cette question du chiffre dans une interview à la Charente Libre. Pour l'ancien CRS, on fait fausse route si le nombre d'interpellations devient un indicateur de la bonne gestion d'une manifestation. Pour lui, il vaudrait mieux, et je le cite, « travailler sur l'identification des radicaux, par exemple via les drones ou le marquage de synthèse, pour pouvoir les traduire devant la justice de manière claire et ferme. Quitte à aller les interpeller à 6h du matin le lendemain, plutôt qu'au milieu d'une manifestation. Et puis, comme pour tous les services publics, on coupe depuis longtemps dans les budgets alloués à la police. Comme l'explique Lucas Lévy-Jeunès dans son ouvrage « La police contre la démocratie ».
Faire plus avec moins. C'est le grand principe managérial auquel tente de se plier la police, dans un contexte où d'importants mouvements sociaux se succèdent, mais où les effectifs traditionnellement prévus pour y faire face ont été largement amoindris. La BRAVEM, à rebours du principe de spécialisation, permet de mobiliser les mêmes agents pour accomplir des missions diverses qui exigent des compétences distinctes. Alors que chez les CRS ou les gendarmes mobiles, des sections spéciales sont prévues pour faire les interpellations, tout le monde doit pouvoir tout faire dans la Bravem. Interpeller, disperser, constituer des barrages et des flangardages, contrôler les accès.
On demande donc à des gens peu formés de travailler plus et plus longtemps. On les encourage à aller au contact, à procéder à un maximum d'interpellations, le tout en maintenant un esprit de corps dans lequel les manifestants sont assimilés à des délinquants. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin lui-même, avait ainsi affirmé que participer à une manifestation non autorisée était en soi constitutif d'un délit. Ce qui est faux, comme la Cour de cassation l'indique dans une décision de 2022. Il y a donc peu de chances qu'un tel contexte permette de diminuer les violences policières ou de générer un quelconque apaisement dans les rapports entretenus par les forces de l'ordre avec la population. La situation est telle qu'en mars 2023, à l'occasion des heurts avec la police, en particulier la Bravem, lors du mouvement social contre la réforme des retraites, la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe a jugé nécessaire de rappeler l'État français à l'ordre. Et elle publie le communiqué suivant. Des incidents violents ont eu lieu, parmi lesquels certains ont visé les forces de l'ordre. Mais les actes de violence sporadiques de certains manifestants ne sauraient justifier l'usage excessif de la force par les agents de l'État. Ces actes ne suffisent pas non plus à priver les manifestants pacifiques de la jouissance du droit à la liberté de réunion. Fin de citation, à bon entendeur.
France Inter. Affaire sensible, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, la brave M, dont nous parlons avec notre invité David Dufresne. Bonjour.
Bonjour Fabrice.
Journaliste, écrivain, réalisateur, spécialiste des questions policières, vous avez notamment réalisé le documentaire intitulé « Un pays qui se tient sage » en 2020 et vous avez fondé le média au poste.fr. Que voulez-vous dire à travers ce titre « Un pays qui se tient sage » ?
Ah, c'était une allusion, un retournement d'un policier alors qui n'appartenait pas à la Bravem, à Mantes-la-Jolie, en 2018, où il y avait un mouvement des lycéens en même temps que les Gilets jaunes. Et on se souvient probablement de ces images d'enfants agenouillés jusqu'à 3-4 heures dans le froid avec des menottes dans le dos et un policier qui les filme en disant « Ah, voilà une classe qui se tient sage ». Et donc, on avait détourné cette phrase de ce policier pour évoquer effectivement cette question singulière du maintien de l'ordre, de la France, pays des révolutions, des manifestations, des rassemblements, qui a toute une histoire que vous avez très bien racontée.
Merci. C'est assez étonnant quand même d'imaginer qu'avant cela, avant la brave M, avant Malik Oussekine, la politique de maintien de l'ordre en France ait pu être considérée comme un modèle pour d'autres pays.
Alors, attention, car le titre de l'émission « Le maintien de l'ordre à la française », c'est quelque chose que les policiers français ont beaucoup dit, pour une raison qui va dans leur sens, c'est qu'en effet, on a vu des CRS notamment, des gendarmes mobiles, aller donner des leçons à des pays, notamment des pays africains, de maintien de l'ordre. Il y avait une idée que la France pouvait, la police française pouvait servir de modèle. Mais c'est autant une réalité qu'un mythe. Et là-dessus, le mythe s'est totalement effrité. Néanmoins, ce que la France peut faire en termes de maintien de l'ordre est regardé à la loupe par toutes les polices du monde, qu'elles soient de pays démocratiques ou non. Parce que, justement, la France joue toujours un peu ce rôle de boussole. Et la Bravem, la brutalisation policière, la violence d'État qu'on a vue à l'œuvre ces dernières années a été d'une certaine manière saluée par des pays qui absolument pas démocratiques en disant bah, « Puisque M. Macron fait ça, puisque la France fait ça, moi je peux le faire ». C'est allé très loin puisque Vladimir Poutine lui-même, devant Emmanuel Macron, lui avait fait la leçon en disant « Mais moi, chez moi, en Russie, les manifestants ne sont pas blessés, ne sont pas tués. » Il a raison, les manifestations sont totalement interdites.
Sinon on va en prison, c'est pas mieux.
Non, c'est pas mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a cette idée de modèle qui est à prendre en compte. Et ce modèle a totalement volé en éclats ces dernières années.
et notamment à partir des années 2000. Alors, pourquoi à partir des années 2000, on a dit, hein, entre 2005 et 2015?
Alors, il y a différentes choses. D'abord, vous l'avez raconté, un mouvement comme celui des Gilets jaunes pose des problèmes tactiques et techniques aux policiers. Pas la peine de redire ce que vous avez raconté. Il faut à ce moment-là pour la police s'adapter. Mais ça, c'est toute l'histoire de la police depuis que la lieutenance de police existe depuis le XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'elle passe son temps à s'adapter. Quand il y a le gang des tractions avant, la police s'équipe de voitures. Eh bien, pour le maintien de l'ordre, c'est la même chose. Si les manifestants sont plus mobiles, la police doit d'être plus mobile. Ce qui va se passer, c'est que l'État va considérer, je parle d'État sciemment parce que il faut toujours rappeler qu'en France, la police est nationale, ce qui n'est pas le cas dans les pays voisins où la police est fédérale, cantonale en Suisse, fédérale en Allemagne, etc. Quand on parle de police, vous disiez au tout début de votre émission qu'on parle de politique, singulièrement en France, puisqu'on parle de l'État, de la police nationale. Ouais. Et donc, si vous voulez, l'État a considéré qu'il pouvait durcir le ton. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le seuil de tolérance à la violence de la part des manifestants a considérablement baissé dans la population, aidé en cela par les chaînes d'information qui ont commencé à considérer qu'un feu de poubelle était d'une gravité sans nom. Je vous ai entendu parler du saccage de l'Arc de Triomphe. Moi, je parlerai de détérioration. Je veux dire que c'est pas ça un saccage. Un saccage, il n'y a plus rien.
Oui, mais c'était symbolique parce que on s'en prenait un bâtiment très très politique et qui représente Paris parmi les bâtiments qui représentent le plus la capitale française. Il y avait une force symbolique, une charge symbolique qui était forte.
Ah, c'est absolument incontestable. D'ailleurs, Grégory Joron, le policier que vous avez interviewé, parle bien de place à prendre, à ne pas laisser. Je rappelle néanmoins que cet arc de triomphe, c'est avant tout un monument militaire à la gloire des généraux napoléoniens. Ça n'est en aucun cas un lieu de pouvoir. Donc, il s'agissait pas, par exemple, d'insurrection. Il s'agissait pas de prendre l'arc de triomphe pour en faire, si vous voulez, la base arrière d'une rébellion qui sera incroyable. Mais néanmoins, on n'avait pas vu dans les rues de Paris, et c'est là où on va rejoindre les Bravem, on n'avait pas vu dans les rues de Paris, depuis la Commune, dans les quartiers aisés, riches, autant de manifestations, autant de détériorations, autant de peuple finalement en colère. Et c'était ça l'aspect absolument nouveau, on va dire, d'une certaine manière. En mai 68, les Champs-Élysées avaient été réservés le 30 mai aux partisans du général de Gaulle. C'était pas, vous voyez ce que je veux dire. Je veux pas minimiser ce qui s'est passé sur l'Arc de Triomphe, disons que il faut toujours avoir en tête que vous posiez la question, qu'est-ce que c'est que le maintien de l'ordre? Le maintien de l'ordre, d'une certaine manière, c'est du théâtre. Surtout en France. Il y a une forme de folklore. Nous fêtons le 14 juillet, nous fêtons deux choses. La fête de la Fédération, qui est plutôt justement quelque chose de l'ordre de l'ordre, et nous fêtons la prise de la Bastille un an avant, qui est le désordre absolu, si vous voulez. C'est ça que nous fêtons. Donc, notre pays est fait de ces questions-là.
France Inter. Affaires sensibles.
David Dufresne, la France ne s'est pas engagée comme l'Allemagne ou la Belgique, l'Angleterre et d'autres pays du Nord à un maintien de l'ordre articulé autour de la désescalade. Un, pourquoi? Et deux, quel est ce concept précisément de désescalade?
Le concept de désescalade, c'est l'idée de dire que il faut baisser la tension. Pendant très longtemps, c'est d'une certaine manière, dans certaines manifestations, ce que les CRS et les gendarmes mobiles en France donc faisaient. D'ailleurs, la première journée de stage de formation d'un CRS, c'était savoir absorber des coups, savoir absorber des insultes, faire en sorte que la tension baisse. Mmh. Et là, effectivement, c'est ce que la plupart des pays que vous avez cités font aujourd'hui. Il faut savoir que toutes les polices d'Europe se réunissent chaque année dans un programme qui s'appelle Zodiac pour faire ce qu'ils appellent des retex, des retours d'expérience. Toutes les polices françaises, sauf une, toutes les polices, je veux dire, sauf une, la police française. Voilà. Mmh. Toutes les polices européennes, sauf la police française. Et là, on a un aperçu de cette vision un peu de citadelle assiégée telle que se vit la police aujourd'hui, en se croyant le dernier rempart de la République, seul au monde, critiqué, observé, et ne supportant pas, justement, qu'on la regarde. Hein. C'était l'idée de la loi sécurité globale dont vous avez parlé, qui voulait empêcher la publication, la diffusion d'images de policiers en action. Ces mêmes images, ces mêmes sons qu'on a entendus au tout début de votre émission, oui, qui nous permettent de
frappant,
discuter.
Hein. Ouais, qui était frappant.
Bien sûr.
Oui, on a beaucoup. Allez-y, je vous en prie.
Donc voilà. Et donc la désescalade, si vous voulez. Alors c'est un concept un peu compliqué à aborder, mais il est clair que les autorités, parce que quand on parle de la police, il faut bien parler du ministère de l'Intérieur et de la préfecture de police de Paris, ne sont pas du tout dans cette idée-là. Peuvent l'être à certains moments, sont capables de tenir un petit peu leur troupe. Mais si on parle des Bravem, c'est tout l'inverse qui est mis en place. Et cet inverse, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle, dans le langage policier, le saut dessus, c'est-à-dire l'interpellation violente, qui est faite à la fois pour figer, sidérer les gens qui sont autour de celui qui est interpellé, autant que l'interpellation. On a entendu dans vos témoignages des gens qui ont été arrêtés, qui ont été contrôlés, qui ont été frappés, et qui pour autant ne sont pas transmis à la justice. Ce qui veut dire que c'est une police qui croit faire elle-même la justice en tapant les gens et en les laissant sur le trottoir. Mmh. Ça, c'est tout à fait antidémocratique, pour reprendre le titre du livre de Lucas Lajeunesse que vous avez cité.
Alors, on a beaucoup parlé de la Bravem et des voltigeurs. Alors, est-ce que c'est pas maladroit quand même de créer une police à moto, donc deux personnes sur une moto, sachant que le souvenir des voltigeurs est encore vivace?
Écoutez, il est vivace pour des gens de notre génération.
Oui,
je me souviens que vous m'aviez invité, j'étais au bord des larmes, pour parler de Malik Ousekine il y a quelques années. C'était il y a très longtemps, en 1986. Je crois qu'aujourd'hui, l'idée de provoquer, l'idée de dissuader, de manifester, l'idée éventuellement de concentrer les critiques sur une unité spécifique, celle de la Bravem, particulièrement démonstrative, théâtrale, comme je disais tout à l'heure, brutale, tout ça pèse plus que le souvenir de Malik Ousekine, alors que vous avez tout à fait raison, Malik Ousekine va mourir au 20 rue Monsieur le Prince en 1986, de coups de matraque de trois policiers, notamment deux vraiment, qui sont descendus de leur moto pour le frapper à terre, et il va mourir dans le sas d'un immeuble.
Et sur la question des violences policières, justement, est-ce que c'est une spécificité française? Je veux dire, y en a-t-il plus en France qu'ailleurs, en Europe? Évidemment, on compare avec les pays démocratiques, hein, bien sûr.
Bien sûr. Alors, non, la police française est plus violente, absolument. Il y a aujourd'hui cette loi sur le refus d'obtempérer, qui crée, qui provoque énormément de décès, beaucoup plus que dans les pays voisins où les mêmes lois existent ou n'existent pas, justement, c'est selon. Parfois, ça amène des révoltes sociales comme celles qui ont eu lieu après la mort de Naël, qui elles-mêmes vont amener un maintien de l'ordre extrêmement violent avec des blessés graves et des morts. Donc là, on est, si vous voulez, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'escalade, justement.
Ah oui, au contraire de la désescalade.
Absolument, absolument. Mais si je puis me permettre, nous avons en ce moment même, dans un autre pays démocratique, un exemple frappant sous nos yeux. C'est à Los Angeles, en ce moment, au moment où nous parlons, le journal d'Inter à 13h en parlait, Donald Trump est en bras de fer avec le gouverneur démocrate de Californie, parce qu'il y a deux ou trois rues qui sont qui sont sujets à des manifestations, même pas des émeutes, alors que Los Angeles sait être une ville émeutière, des manifestations pour défendre les immigrés. Eh bien, que fait aujourd'hui Donald Trump ? D'abord, il a appelé la garde nationale et maintenant les Marines, c'est-à-dire qu'il envoie l'armée contre son peuple.
Oui.
Les unités de maintien de l'ordre françaises utilisent des armes de guerre, il faut le rappeler, qui sont cataloguées comme telles par les instances internationales sur leur propre peuple. Le LBD, les grenades assourdissantes, sont des armes cataloguées armes de guerre qui ne sont pas utilisées dans le maintien de l'ordre par les autres pays voisins.
Quels sont les chiffres s'agissant des condamnations de policiers en France ? Des proportions, peut-être pas des chiffres précis, mais des proportions.
Non, c'est extrêmement faible, même si aujourd'hui, il y a un peu plus de poursuites qu'auparavant, suscitant l'ire des syndicats de police. Il y a eu quelques condamnations. Pour la BRAVEM, très peu. C'est très, très, très rare. Tout à l'heure, nous parlions du 1er décembre 2018, les Gilets jaunes, l'Arc de Triomphe. Rappelez-vous, le soir même, il y a, cette fois-ci, c'est des CRS et des gendarmes mobiles. Il y a les scènes terribles du Burger King. Je pense que tout le monde s'en souvient. Les images ont fait le tour du monde. Des Gilets jaunes s'étaient réfugiés dans le Burger King. Parce qu'ils n'en pouvaient plus des gaz lacrymogènes, et on voyait avancer toute une compagnie de CRS qui frappait à terre ces gens-là. Ouais. Figurez-vous que le procès s'ouvrira en 2026, c'est-à-dire 8 ans après. 8 ans après les faits.
Ouais. Là et aussi, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce constat sera le mot de la fin. David Dufresne, merci. Merci infiniment. Au revoir.
Merci à vous. Merci beaucoup.
Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les Braves M, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique, il y avait Julien Dumont.